bien. On se contente de la température qu'on a présentement. J'ai remarqué ces temps-ci, je sais pas si vous avez remarqué comment est-ce que les fleurs s'ouvrent toutes de ces temps-ci. Moi, mes yeux, mon nez, ma gorge, je me rappelle tout le temps que les fleurs sont en train de s'ouvrir. Fait que c'est vraiment le fun. Si vous voulez tourner avec moi dans le livre de Sophonie, pour ceux qui ont leur Bible, alors c'est un très petit livre, parfois plus dur à trouver. Fait que si vous commencez avec les prophètes Daniel, Osée, Amos, Jonas, Michée, Nahum, vous avez vu Habacuc, la semaine passée. Et cette semaine, vous avez Sophonie. Je vais juste commencer par prier, puis après on va rentrer dans notre livre, dans le livre de Sophonie. Fait que juste remettre ça dans tes mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je sais que j'ai besoin de toi pour différentes petites choses, Seigneur, juste pour le débit de ma voix, Seigneur, juste pour ce que tu me donnes à parler sur ce livre qu'un prophète a écrit dans des jours de grandes espérances, mais où est-ce qu'il amène une leçon sombre, où est-ce que tu juges encore la nation, où est-ce que tu sais que ton peuple a encore été infidèle et s'est encore tourné vers des idoles. Mais Seigneur, tu ne nous amènes pas simplement un avenir sombre, mais tu nous amènes de l'espoir avec ce livre-là. Alors Seigneur, je te demande que tu puisses être avec moi, avec mes lèvres, avec mon cœur, que ton Saint-Esprit puisse m'aider à donner ce dont j'ai besoin pour que les gens qui viennent ici, simplement pour apprendre qu'est-ce que ce livre de la Bible dit, qu'ils puissent ressortir édifiés. Et Seigneur, s'ils n'apprennent pas quelque chose de nouveau, mais qu'ils puissent au moins ressortir avec, Seigneur, une parole de ta part. Et c'est en ton nom que je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Comment trouvez-vous les gens pessimistes? Qui aime se retrouver en compagnie d'une personne qui annonce de mauvaises nouvelles? Beaucoup de gens se retrouvent des fois en présence de ces gens-là qui donnent de mauvaises nouvelles. Des fois, quand on regarde le téléjournal, on a l'impression parfois que les nouvelles sont sombres. Surtout quand on regarde les nouvelles internationales, on regarde. Parfois, il peut y avoir de très bonnes nouvelles, mais souvent, on a l'impression que le monde ne va pas bien, que ça s'en va pas dans la bonne direction. Des fois, on a des petites lueurs d'espoir. Des fois, on a l'impression qu'il y a peut-être des réveils. Et c'est dans un contexte comme ça que Sophonie a été écrit. Sophonie qui veut dire « caché de Dieu ». Un petit prophète qui est ici. Le thème de ce livre-là, si on veut juste changer, le thème c'est « Dieu donne un avertissement ». Il va envoyer un jugement imminent sur Juda, mais gardera un faible reste qui trouvera son refuge en l'Éternel. C'est un livre que quand on lit, pour ceux qui étaient ici il y a environ, c'est-tu la semaine passée? C'est la semaine passée avec François, on a déjà révisé le livre, on a déjà donné une bonne prédication sur le livre, fait que j'ai hâte de voir si je peux amener quelque chose de nouveau. Mais il a introduit le livre avec cette première phrase qu'on va juste relire parce que c'est vrai qu'elle frappe quand on la lit pour la première fois. Alors, « Parole de l'Éternel adressée à Sophonie, fils de Cushi, descendant de Guédalia, d'Amaria et d'Ézéchias durant le règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda. Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je ferai disparaître les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui fait trébucher les méchants. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. » Alors, on peut voir déjà, en commençant, que c'est un livre de jugement. C'est pas un livre qui a un ton joyeux. Il y a un certain ton d'espoir dans ce livre-là, mais sinon, en gros, l'idée qu'on a derrière ça, c'est que c'est un livre qui est assez sombre. Dieu va donner un avertissement. Il va envoyer un jugement sur Juda. Le contexte de ce livre-là, pourtant, n'est pas si sombre que ça. Si on change le contexte historique, on se trouve, le début du livre déclare que la parole de l'Éternel a été adressée à Sophonie au temps de Josias, le roi de Juda. Si vous allez dans 2 Rois 21, vous pouvez voir que la nation d'Israël, les 10 tribus du Nord, ont été exilées depuis environ un petit peu plus une centaine d'années à cause de leur désobéissance. Chronique rapporte que le peuple d'Israël a été déporté à cause de son idolâtrie, de sa constante rébellion envers l'Éternel qui pourtant avertit encore et encore Israël et qui n'ont pas écouté et finalement ont été déportés par les Assyriens. Juda a failli être déporté par les Assyriens aussi, mais finalement l'Éternel a accordé une délivrance assez miraculeuse par Ézéchias. À la suite d'Ézéchias, qui était un roi quand même assez fidèle à l'Éternel, on a eu deux rois, Manassé et Amon, si je ne me trompe pas. C'est-tu Amon? Oui, Manassé et Amon. Manassé et Amon ont été deux rois qui, selon ce qui est décrit dans Deux Rois, dans Chronique, ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Manassé a régné 55 ans, Amon a régné 2 ans, s'est fait assassiner au bout de ces 2 ans. Je ne sais pas si c'est parce que le peuple était tanné de voir un roi qui était idolâtre et qui ne respectait pas l'Éternel. Mais après cela, il y a eu un roi du nom de Joas qui a commencé à régner à l'âge de 8 ans. Sophonie a probablement grandi durant les règnes de ces deux rois-là qui étaient méchants. Il a vu la corruption, il a vu la méchanceté, l'idolâtrie de ces deux rois. Et Joas, à l'âge de 8 ans, a commencé à régner. Et c'est environ vers l'âge de 12-16 ans, j'essaie de me rappeler exactement, la 18e année de son règne, non, fait qu'il y a eu 8 ans plus 18, ça fait 26 ans. À l'âge de 26 ans, commence une première réforme, veut rebâtir le temple de l'Éternel, veut rebâtir les portes, et finalement trouve un livre dans le temple de l'Éternel. C'était le livre de la loi. Est-ce qu'il avait été perdu durant les derniers siècles? Est-ce que quand les gens avaient fait du temple de l'Éternel un temple d'idole, que là, le livre, ça avait été égaré dans un coin ou, comme j'ai vu dans une bande dessinée, en arrière d'un mur qui avait été rajouté? On ne sait pas, mais ils ont retrouvé ce livre-là. Et là, le secrétaire s'en va voir le roi, il dit, on a trouvé un livre, je veux juste le lire. Il lit le livre de la loi de l'Éternel et le roi est convaincu de péché, est convaincu du jugement qui s'en vient sur le peuple. Il dit, malgré la réforme qu'il est en train de faire ici, on a accumulé un jugement de la part de Dieu. Et là, on va être détruit, il y a quelque chose qu'il faut faire. Et certains des commentaires vont dire que Sophonie vient aider le roi Joas à faire cette réforme-là parce que, justement, on voit que Sophonie amène un message de jugement, mais aussi d'espoir, de dire, oui, un jour, il va y avoir un reste. Dieu va ramener son peuple. Et là, Joas espère de dire, mais on va se remettre à jour avec la loi, on va célébrer la Pâque. Alors, le message négatif de Sophonie n'amène pas nécessairement un endurcissement de la part du roi, mais au contraire, le rend vraiment conscient de son péché. Et ça nous apprend quelque chose à nous, les chrétiens, c'est que des fois, un pasteur a résumé ça par cette parole. Une parole dure peut produire un cœur mou, malléable de la part des gens. Une parole molle, une parole trop douce peut produire un cœur dur de la part des gens. C'est là qu'il faut apprendre qu'il ne faut pas avoir peur des paroles dures. Il ne faut pas avoir peur des paroles qu'on sait qui ne plaira pas aux gens. Surtout si c'est la vérité. Parce que parfois, Dieu va se servir de nos paroles dures, des paroles de jugement, pour adoucir, ramollir notre cœur, le rendre malléable, pour finalement être disposé à entendre ce que Dieu a à nous dire. Et je sais pas si vous savez, lorsque moi je prends souvent l'exemple d'un père avec ses enfants. Fait que si vous venez me voir, quand vous entendez, je vais souvent utiliser cette image-là. Parce que pour moi, Jésus a présenté Dieu vraiment comme un père. Dieu s'est révélé comme un père à la nation d'Israël. Jésus est venu et s'est révélé comme étant le Fils de Dieu. Et là, il a dit aux gens qui croyaient en lui, ben maintenant, Dieu est votre père. Et il n'a pas choisi le mot « mère ». Il n'a pas choisi le mot « le tout-puissant ». Il a choisi le mot « père » parce que c'était ce qui représentait le mieux Dieu envers nous qui allons être sauvés, ses enfants. Et Dieu, comme un père, n'a pas peur de donner les paroles dures, tout comme un parent, s'il se retrouvait devant son enfant, il ne dirait seulement « non, mais il ne dirait jamais ce qu'il a fait de mal. Il ne dirait jamais qu'il va recevoir une punition. » Finalement, appliquerait jamais sa punition. Quel genre d'enfant vous pensez qu'on obtiendrait? On a un petit peu, il y a un petit peu cette pensée-là de ces temps-ci qu'il faut être ami avec nos enfants, on doit être leurs meilleurs amis, donc éviter les paroles qui vont toucher leur estime de soi et tout ça. Alors, tout d'un coup, des années plus tard dans le journal, je me rappelle, la première page, ça dit « On est à l'époque des enfants rois ». Et c'est pas étonnant parce que aujourd'hui les paroles dures ou les paroles où ce qu'on dit je suis pas d'accord avec toi ou les paroles qui disent genre non c'est mal tu devrais pas faire ça aujourd'hui on essaie de les balayer parce que ce qui compte pour les gens aujourd'hui c'est de dire c'est mon estime de soi s'il faut que je me bâtisse fait que dites-moi des paroles des bonnes paroles puis là je vais me bâtir et même je me souviens à l'université on nous disait tu ne dois pas critiquer une personne. Tu ne dois pas dire ses points forts et ses points faibles. Tu dois dire ses points forts et des points à travailler. Parce que dire des points faibles, c'est beaucoup trop négatif. Et quand on arrive à l'abîme, c'est peut-être pour ça que les gens, en arrivant à l'Ancien Testament, sont si surpris. Parce qu'on arrive à l'abîme et Dieu s'approche et dit « Ce que ce peuple-là a fait, c'est mal. Ce que vous faites présentement, c'est de l'idolâtrie. C'est mal et je vais vous juger. » Alors, Dieu ne se gêne pas à dire les paroles de jugement. Josias, c'est-tu le roi? Excusez-moi, je me suis trompé, c'est le roi Josias. Oui, le roi Josias. Alors, Josias, le roi, quand ça se passe environ aux alentours de 630 avant Jésus-Christ. Si on se situe avec, vu qu'il nous donne exactement le moment où est-ce qu'il donne sa prophétie, on peut dater le livre assez exactement. On voit que l'auteur, c'est Sophonie, tel que mentionné dans le début du livre. Sophonie se prétend ou dit être un descendant d'Ézéchias. Certains commentaires vont dire que c'est probablement le seul prophète en qui il y avait du sang royal en lui. Parce qu'il pense que l'Ézéchias, avec lequel il s'identifie, ce serait le roi Ézéchias. La structure du livre, le livre a été divisé en quatre. On a d'abord le chapitre 1, jusqu'au chapitre 2, verset 3. On a le jugement imminent de Juda, mais aussi ce que j'appellerais la section sur le jour de l'Éternel. Si vous regardez dans le premier chapitre, on va lire les versets, on va partir du verset 7, où est-ce que vous allez voir que Dieu parle d'un certain jour, et il va le répéter plusieurs fois après, avec les prochains versets, à partir du verset 7, Sophonie 1. C'est « Silence devant le Seigneur l'Éternel. En effet, le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice. Il a consacré ses invités. Le jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai contre les princes et les fils du roi et contre tous ceux qui portent des habits étrangers. Ce jour-là, encore le jour de l'Éternel, j'interviendrai contre tous ceux qui sautent par-dessus le seuil pour remplir de violence et de fraude la maison de leur Seigneur. Ce jour-là, déclare l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, une des portes de Jérusalem, des lamentations dans la ville neuve et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Mactès, car le peuple des marchands est détruit, tous les peseurs d'argent sont supprimés. » Verset 14. « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortifiées et les hautes tours. Verset 18, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, car il détruira et ce sera terrifiant, tous les habitants de la terre. » Voyez, Sophonie est en train de présenter un jour, le jour de l'Éternel. Voyez, c'est pas un jour qui a l'air très joyeux, c'est un jour sombre, un jour de lamentation, un jour de jugement. Il est en train de dire, parce que souvent l'être humain a l'impression que la vie va toujours continuer son cours comme elle le fait présentement. Alors, on a nos semaines, on suit le cours de notre vie. Et souvent, les prophètes rappellent que non, il va y avoir un jour où ce que là, votre vie, comme vous la vivez présentement, va arrêter. et Dieu va venir vous juger. Dieu va venir vous rendre selon ce que vous avez fait. Et pour nous aujourd'hui, c'est important parce que les gens, et même dans le Nouveau Testament, quand Pierre parle des gens qui vivent avec les chrétiens, ils disent « Ah, oh, mais la terre est pareille comme elle l'a toujours été depuis le commencement. » Et là, Pierre leur rappelle « Non, mais un jour, il va y avoir un jour où ce que l'Éternel va venir nous juger, va venir nous rendre selon ce qu'on a. » Et les prophètes, l'un des rôles des prophètes, c'est de rappeler l'alliance qu'il y a eu dans le passé, ou ce que le peuple d'Israël a fait alliance, mais aussi de rappeler qu'un jour, il va y avoir un jour où est-ce que Dieu va devoir rendre compte avec chacune de ses créatures selon ce qu'elles ont fait. Et c'est pour ça que Sophonie et certains autres prophètes vont mettre une emphase sur ce jour-là qui s'en vient, qui est un jour de jugement et de malheur. Et là, ils peuvent affirmer que c'est un jour de malheur parce qu'ils regardent la nation et ce qu'ils voient, c'est de l'idolâtrie. Ce qu'ils voient, c'est les gens qui se fraudent les uns les autres, des meurtres. Au niveau politique, ça va vraiment pas bien. Alors, Dieu va venir et juger. Et non seulement le peuple de Juda, qui est le peuple de Dieu, et souvent on remarque que dans les Écritures, les prophètes vont commencer par juger le peuple parce que c'est ceux qui sont censés représenter l'Éternel. Alors, vous avez le premier chapitre, que c'est le jugement imminent de Juda, et il doit les reprendre parce que le peuple de l'Éternel était censé refléter ce que l'Éternel était. Et là, quand le peuple ne reflète pas, les nations d'autour se moquent de l'Éternel parce qu'on ne le reflète pas bien. Et alors l'Éternel juge son peuple en premier parce que justement, ils sont doublement coupables. Alors, les gens qui en connaissent beaucoup vont devoir rendre compte de beaucoup plus que les gens qui en connaissent beaucoup moins. Et ça, c'est un thème qui revient dans les Écritures encore. Nous, qui savons beaucoup, qui avons vu Jésus-Christ par la foi, qui avons connu la délivrance de nos péchés, on a une responsabilité. Et je ne mets pas ça pour nous mettre un fardeau, parce que ce qui est le fun, c'est que Dieu il dit, je te donne la responsabilité, mais je te donne la force et le pouvoir de le faire. Si tu n'y arrives pas, c'est probablement que tu y as été par tes propres forces. Parce que moi, je ne fais pas juste te dire, bon, voilà ta responsabilité en tant que peuple de Dieu. Fait qu'arrange-toi. Tu vas être capable. Il n'y aura pas de problème. Non, au contraire. Dieu dit, voici la responsabilité. Je le sais que tu n'es pas capable. Je vais prendre sur moi le fait de te donner la force de pouvoir faire cette responsabilité. Et quand on n'y arrive pas, Dieu appelle le peuple à se repentir. Il dit, OK, vous n'avez pas été le peuple, vous n'avez pas agi comme étant le peuple de Dieu, je vous juge. Je vais vous juger. Mais avant de juger, Dieu avertit. Si vous allez voir au chapitre 2, à la fin de cette première section, quand il dit qu'il va y avoir un jugement pour Juda, il dit, réfléchissez. Verset 1 du chapitre 2, réfléchissez et examinez-vous, nation dépourvue de honte, avant que le décret ne survienne et que ce jour ne disparaisse comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel ne vous atteigne, avant que le jour de la colère de l'Éternel ne vous atteigne. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui mettez ses règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu qui s'amuse à donner un jugement puis à dire, bon, ben vous avez essayé, tant pis pour vous. Il juge parce que c'est un Dieu juste, mais il va continuellement avertir. Personne ne pourra accuser Dieu de dire, tu ne nous as pas assez avertis, tu ne nous as pas assez dit. Dieu est toujours là à dire, je veux que tu reviennes, reviens. Il est toujours là jusqu'à temps que le jour vienne. Il va, même si vous avez manqué, failli une centaine de fois, un millier de fois à représenter Dieu, tout ce que Dieu dit, il dit, examine-toi et reviens vers moi. C'est encourageant quand même, au travers de ce jugement-là. Dieu n'est pas en train de dire, bon, il n'y aura pas de jugement, tout ça, mais il est en train de dire, malgré le jugement, je veux que tu reviennes à moi. Et c'est ça qu'il fait. Dieu, la deuxième section, c'est Dieu jugera les nations. Là, on prend tout le reste du chapitre 2. On voit que Dieu, en bon langage québécois, fesses sur les autres nations, sur les ennemis d'Israël, sur les nations païennes. Si vous regardez, on peut lire un petit peu verset 4, justement. En effet, Gaza sera abandonné. Puis là, quand vous ne savez pas trop comment prononcer les noms différents, vous faites juste dire vite, rapidement, comme si vous le saviez, puis ça passe dans le beurre. Regardez, je vais vous donner un exemple. Ascalon sera dévasté. Asdod sera chassé. En plein midi, Ekron sera déraciné. Malheur aux habitants des régions maritimes, à la nation des Kérétiens. Je ne suis pas sûr si c'est comme ça ça se prononce, mais c'est comme ça que je le dis. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les régions maritimes deviendront des pâturages, des terrains pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. C'est pourquoi, verset 9, « Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, Moab sera pareil à Sodome et les Ammonites pareil à Gomorre, un endroit couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. » Le reste de mon peuple les pillera, ceux qui subsistent de ma nation les aura en héritage. Quand vous regardez Dieu juger les nations, c'est jamais beau. Il prend les images les plus horribles, je vais dire ça comme ça. Là, il compare une nation, il leur dit, vous allez être comme Sodome et Gomorre. Pour ceux qui ont vu l'histoire de Sodome et Gomorre dans la Genèse, ce qui leur est arrivé, c'était pas beau. Dieu les a complètement détruits. Là, je peux me tromper. Je vais dire quelque chose. Vous pouvez vérifier les sources. Mais si je me trompe pas, l'endroit où ce que Sodome et Gomorre seraient encore actuellement serait un endroit encore infertile, impossible d'y faire quoi que ce soit. C'est un désert. Dieu les a jugés. Et c'est drôle parce que dans le reste de l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, Sodome et Gomorre est considéré comme le jugement par excellence de Dieu. C'est comme ça que Dieu va juger le feu qui tombe du ciel. Les gens qui sont attachés à cette ville-là, même de cœur, comme la femme de Lot qui se retourne, a été jugée même si elle n'était pas dans la ville. Personne n'y échappe à ce jugement-là, sauf un petit reste par la foi. Mais personne n'échappe à ce jugement-là. Fait que notre conception de Dieu ne doit pas commencer, selon moi, par son amour. La Bible présente Dieu premièrement comme étant un Dieu saint. Et il se présente comme étant le Dieu saint. Et oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est grâce. Et il dit dans son nom, tu sais, il se présente comme l'Éternel, le Saint d'Israël, il se présente comme lent à la colère, riche en miséricorde. Mais cette grâce et cet amour, c'est un amour saint. Ou ce qui n'aime pas le mal. Dieu ne fait pas seulement dire « Je vous aime comme vous êtes ». Dieu est en train de dire « Je vous aime trop pour vous laisser comme vous êtes ». Et ça, c'est un véritable amour où ce que Dieu connaît nos péchés, connaît les mauvaises tournures de notre cœur. Et il dit « Je vous aime tellement que je veux vous en débarrasser de ça. Je ne veux pas vous laisser comme vous êtes présentement ». Et aux nations qui l'auront rejeté, aux nations qui ne voudront rien savoir de Dieu et du sacrifice qu'il nous a offert, Dieu annonce un jugement. Et c'est vraiment un rime. François mis l'emphase sur le verset 15 qui disait « Voilà donc cette ville joyeuse qui siégeait en sécurité » et qui disait dans son cœur « Moi et rien que moi ». Alors, François, il disait, ça ressemble tellement à notre culture aujourd'hui où ce que les gens disent « moi et rien que moi ». Et pas seulement la culture, mais même moi, encore là, je me sens interpellé par ça parce que c'est vrai que quand j'agis naturellement, je vois que dans mon cœur, c'est « moi et rien que moi ». Les gens veulent se bâtir eux-mêmes, développer leur plein potentiel. Puis là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est comme c'est moi et rien que moi. Et Dieu ne veut pas, oui, il veut les sauver de sa colère. Il veut les sauver d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont, de comment est-ce qu'ils sont. Ils veulent pas enlever, tu sais, des fois les gens vont demander, est-ce qu'il veut enlever ma personnalité? Il veut pas t'enlever complètement ce qui tu es. Tu aimes le chocolat, tu vas continuer à aimer le chocolat. Mais il veut enlever en toi tout le péché. Il veut te transformer, faire de toi une nouvelle créature. il faut arriver à un point où ce qu'on va dire avec les gens, même si ça ne nous rend pas populaires, il faut arriver à un point où ce qu'on va dire aux gens, sinon Dieu un jour va devoir juger. Le message de Dieu, c'est pas seulement que Dieu veut nous sauver parce qu'il a un plan merveilleux pour notre vie, mais Dieu veut nous sauver parce qu'il est en colère contre l'humanité. Et il va nous juger comme Sodome et Gomorrhe si on ne revient pas vers lui. Troisième section, la première partie du chapitre 7, est appelée la cause du jugement de Juda, cause du jugement de Jérusalem. Dieu revient à sa ville et va montrer, mais pourquoi est-ce que cette ville-là, pourquoi est-ce que Juda est accusé, on va lire ensemble ces versets-là au chapitre 3. « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'accepte pas la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel et elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs sont au milieu d'elle. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. » Ses prophètes sont des indisciplinés, des trompeurs. Ses prêtres profanent les choses saintes. Ils violent la loi. Et là, Dieu va faire un jeu de mots en disant, quand il disait les chefs sont au milieu d'elle, les chefs qui sont au milieu de Jérusalem sont des lions rugissants, il va dire, au milieu d'elle, l'Éternel est juste. Il ne commet aucune injustice. Chaque matin, il rend ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est injuste ne connaît pas la honte. On a ici un exemple, il passe à travers chaque catégorie de personnes, il dit vos chefs sont juste là pour dévorer les autres comme des brebis, ils veulent juste leur avantage, ils veulent s'enrichir. Les prophètes, ceux qui parlent de vérité, ben ils font à moitié, sont indisciplinés, trompeurs. Les prêtres, ceux qui sont samplés, ceux qui sont censés montrer qu'est-ce qu'il y a la différence entre ce qui est pur et impur, eux autres se profanent eux-mêmes parce qu'ils sont impurs. C'est drôle parce que des fois, tu sais, la description de Dieu vient encore toucher aujourd'hui. On regarde la politique aujourd'hui, comment est-ce que ça va. On regarde nos chefs, on regarde même parfois le peuple de Dieu. Et là, je suis pas en train d'accuser personne précisément, tu sais, on a toute notre part, on a tout un rôle, il y a des gens qui sont fidèles, mais ils montrent que ceux qui étaient censés amener le message de repentance ne le font pas ou le font à moitié. Et c'est un grand scandale parmi certaines des nations soi-disant chrétiennes d'entendre un évangile qui est à moitié ou qui Dieu vous aime et c'est tout. Puis Dieu veut juste que vous soyez riches. Dieu veut juste que vous soyez bien. Et souvent, les prophètes, c'est un petit peu la même chose. Les vrais prophètes disaient, Dieu veut vous juger, repentez-vous, parce que sinon la ville va être détruite. Et les faux prophètes arrivaient et disaient, non, paix, il n'y aura pas de problème. Vous allez aller dans vos champs, Dieu va vous bénir, etc. Il n'y a pas de problème. Les prêtres profanent les choses saintes. On recherche beaucoup plus un diplôme ou une capacité à enseigner chez un pasteur, un enseignant, que vraiment, comment est-ce qu'il est rempli de l'esprit? Comment est-ce qu'il se garde pur par rapport à la souillure de ce monde? Et ça, c'est quelque chose, ça ressemble vraiment à la description qu'on a de Sophonie. Qu'est-ce que Dieu a dit? Regardez, chacune de vos structures, chacune des choses que je vous ai donné les prêtres, je vous ai donné des prophètes, je vous ai même mis des anciens parmi vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a comme pas marché. Et Dieu, il dit, moi, je suis au milieu de tout ça. C'est pas moi qui ai produit ça. Moi, je suis là, puis quand je juge, c'est juste. Moi, je suis au milieu de tout ça, puis je regarde, je suis comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est là où ce qu'il dit, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. La cause, souvent on regarde, c'est quoi la cause de nos problèmes? Et les gens vont aller chercher différentes causes. Comme par exemple, je mentionne souvent, parce que je trouve ça drôle, et je sais que c'est la cause qui est souvent mentionnée, c'est par rapport à l'estime de soi. Je sais que j'en parle souvent, et je le mentionne souvent. Mais souvent, les gens vont dire, mais c'est parce que ton estime de soi n'est pas assez bâtie. C'est à cause de ton passé, tu as vécu des choses dures, donc c'est pour ça que tu es comme ça. Ou c'est dans ton tempérament, tu es comme ça. Fait faut juste que tu acceptes comment tu es. Une bonne acceptation de toi, puis là, ça va aller mieux. Pour les gens, la cause de nos problèmes, c'est probablement quelque chose au niveau de... Ils s'approchent quand même, ils disent c'est à l'intérieur de l'être humain, mais la solution qu'ils apportent, c'est qu'ils vont dire, ben faut juste qu'on dise combien est-ce que tu es une personne merveilleuse, est-ce que si tu y crois assez fort, tous tes rêves vont se réaliser. Ou ben si tu travailles très fort, les gens vont te redonner ce que tu mérites. Puis des fois, il y a un petit peu le karma là-dedans, ce qu'on dit, tu sais, sois bon envers la vie et la vie va être bonne envers toi. Si tu donnes du malheur, c'est probablement parce que tu redonnes. Si on donne du malheur, c'est probablement que tu donnes du malheur. Ou des fois, souris, la vie est un fromage, puis tout va être joyeux. Mais Dieu dit que le vrai problème, il est spirituel. On peut dire qu'il est religieux. Le vrai problème dans le cœur de l'être humain, c'est qu'il ne se confie pas en Dieu. C'est qu'il ne met pas sa foi en qu'est-ce que Dieu a fait. Alors, si vous cherchez c'est quoi vos problèmes de couple, vos problèmes avec vos enfants, vos problèmes personnels avec votre propre tempérament, c'est pas en vous montant vous-même que vous allez trouver la solution. C'est en ce que Dieu fait, a déjà fait en Jésus-Christ, que vous allez trouver la solution. Parce que Jésus, en le faisant, il dit, « Moi, je vous rends saint, juste. » Et même dans le Nouveau Testament, parfois, il va dire « parfait ». Alors, Dieu a déjà accompli. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez tout ce que vous faites ne change rien à mon amour. Tout ce que vous avez besoin, c'est de le recevoir. Et quand est-ce que les problèmes commencent? C'est quand on veut commencer à être quelqu'un par nous-mêmes. On veut se prouver à une autre personne qui est à côté. Je vais lui montrer comment est-ce que je suis drôle, comment est-ce que je peux devenir quelqu'un parce que je fais. Et puis là, avec nos enfants, je vais être tellement un bon parent, les gens n'auront rien à redire autour de moi. Ils vont regarder mes enfants puis ils vont dire, quel bon parent tu es. Ou bien, je vais avoir une bonne job, je vais être responsable, débrouillard, puis là, les gens vont voir que je suis quelqu'un. Différentes solutions. Et puis là, tout d'un coup, c'est drôle parce qu'on en parlait, Élie puis moi, quand on est un enfant handicapé, quand ton enfant n'est pas aussi intelligent que tu l'espérais, quand dans ta job, tout d'un coup, tu n'as pas la job que tu voulais, quand finalement, tu trouves que dans ta relation avec les autres, tu n'es pas aussi drôle, aussi bon, tout d'un coup, ton monde s'effondre, puis là, tu es comme, mais voyons comment ça se fait, puis tout ça. Parce que la solution, tu la cherches, tu essaies de te bâtir qui tu es, tandis que Dieu veut simplement te le donner, te libérer de rechercher qui tu es. Alors là, Dieu dit, non, tu es juste, tu es saint. Et c'est pas par rien de ce que tu as fait. C'est simplement parce que je te l'ai donné par Jésus-Christ. Si tu veux une vie parfaite, elle a déjà été faite. C'est Jésus-Christ qui l'a faite, cette vie parfaite-là. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher, cette vie parfaite-là. Tout ce que tu as à faire, c'est recevoir la grâce que je te donne. Et c'est pour ça que de savoir le cœur du problème, le cœur de Dieu, c'est vraiment « je vous ai créé pour que je puisse simplement vous donner ». Et ça, c'est extraordinaire, mais quand Dieu juge, il montre que le problème, c'est vraiment, vous vous êtes pas confié en moi. Parce que moi, je vous l'aurais simplement donné. Je vous aurais simplement donné ce que vous avez besoin, puis vous l'auriez reçu. La dernière partie du livre, qui est la fin du chapitre 3, à partir du verset 9, tout d'un coup, on a comme un shift. Dieu a jugé sa nation, celui qui disait être son peuple. Dieu a jugé les nations. Dieu a dit, c'est quoi le cœur du problème? Et ensuite, il dit, voici ce que moi je vais faire. Il n'est pas en train de dire, mais un jour, les gens vont finalement se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas correct, puis ils vont se tourner vers moi. Mais Dieu, il commence par dire, voici ce que moi je vais faire. Et là, on a un espoir, parce que si on attend que nous, on fasse quelque chose, des fois, on peut attendre longtemps. Puis des fois, on regarde les gens autour de nous, puis on se dit, on va attendre, un moment donné, il va bien finir par changer, un moment donné, si on attend ça, on va être déçu, parce qu'une personne peut rester la même la même mauvaise personne pendant longtemps. Mais si Dieu intervient, là, il y a de l'espoir. Là, ça va bien. Là, on peut changer de mode. Là, c'est plus une mauvaise nouvelle. C'est là que ça devient une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que l'Évangile, qui, la bonne nouvelle, ne commence pas par « je », « moi », « j'ai », mais commence par « voici ce que Dieu a fait ». Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va lire justement cette dernière section au verset 9, chapitre 3. « Alors, je, disant Dieu, donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Venu de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés, m'apporteront des offrandes. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice. Il ne dira pas de mensonge. Il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse. Mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouble. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion. Ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. À ce moment-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. À ce moment-là, je vous ramènerai. À ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos déportés sous vos dieux, dit l'Éternel. Ça, c'est vraiment une fin glorieuse. Voici ce que Dieu fait. Dieu enlève les orgueilleux. Dieu ramène les exilés. Dieu fait de nous sa joie. Tellement de belles images qu'on pourrait voir, qu'on pourrait regarder, ou ce qu'on pourrait dire, wow, voici tout ce que Dieu fait. Et c'est là où ce qu'on va trouver notre véritable joie. Et c'est là où ce qu'on va trouver vraiment notre véritable identité. Voyez, vraiment, ces deux thèmes-là sont souvent retrouvés dans les prophètes. On a le jugement de Dieu qui va venir, qui est certain, mais on a aussi l'intervention de Dieu pour qu'un reste soit sauvé. Dieu se préserve un reste qui vont trouver leur refuge en Dieu. Et voyez, il dit, le problème, c'est que vous ne revenez pas à moi, vous venez pas vers moi. Fait que Dieu, il dit, alors moi, je vais donner au peuple des lèvres pures afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir. Dieu lui-même ramène les gens. Ça, c'est un grand encouragement quand nous, on proclame l'Évangile. C'est que le poids d'amener une personne au Seigneur ne repose pas sur nos épaules, mais le poids repose sur les épaules de Jésus. Jésus lui-même va ramener les gens et va leur dire, « Moi, je vais leur donner des lèvres pures pour que eux autres fassent appel à mon nom, pour que tout le monde puisse les servir. » Une deuxième chose que Dieu fait, c'est qu'il dit, moi, il y a un thème, les exilés. Dieu veut ramener les exilés. Quand le roi, Josias, si je ne me trompe pas, a lu la loi s'achève sur des bénédictions et des malédictions. Si vous obéissez à mes commandements, voici les bénédictions que vous allez avoir. Vos terres vont produire du fruit, vous allez avoir des fils et des filles, vous allez pouvoir bâtir, vous allez être une lumière pour les nations. Et ensuite, il dit, par contre, si vous n'obéissez pas, voici ce qui va arriver. Et ça descend loin. Il dit, vous allez être envahis par vos ennemis. Vous n'aurez plus de nourriture. À la fin, il dit, et finalement, je vais vous exiler. Alors quand Sophonie prévoit que Mané, il va y avoir un exil. Et le roi d'Israël, le roi de Juda dit non, je veux pas que ça arrive. Fait qu'il va essayer de faire une réforme. Mais le prophète annonce, il dit à cause de ce que vous allez faire, le peuple est mauvais en lui-même. Il va être exilé. Mais ce qui va faire la gloire de Dieu, c'est que ces exilés-là, il va les ramener. Et Jérémie l'annonce qu'après 70 ans, les exilés sont ramenés. Mais c'est pas le seul exil que Dieu promet qu'ils vont être. Il y a un exil encore plus grand que Dieu va ramener. Et si on s'en va, pour ceux qui veulent trouver avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, verset 52. Jésus vient de ressusciter Lazare et les gens se demandent qu'est-ce qu'on fait avec Jésus là? C'est un problème là. Il amène trop de gens avec lui. Fait que là, le prêtre il dit, voyons, vous êtes insensés. Est-ce que c'est pas mieux qu'un homme meure pour que la nation soit sauvée? Puis là, Jean dit, le grand prêtre, en disant ça, il ne se rend pas compte de ce qu'il a dit. Au verset 51, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un corps les enfants de Dieu dispersés. » Et quand vous regardez, vous n'avez pas besoin de tourner avec moi, mais dans 1 Pierre, quand Pierre s'introduit aux chrétiens des différentes nations, il va dire de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Il appelle les chrétiens les dispersés, les exilés. Et Jésus, avant même de mourir, on avait prédit que lui allait ramener aussi les exilés de partout les nations. Et ces exilés-là, c'est nous. Qui parmi toutes les nations, Dieu nous a ramenés. On était chacun dans nos coins. Chacun, vous avez toute votre histoire. Et sincèrement, ce serait intéressant si chacun d'entre vous racontait votre histoire de comment est-ce que Dieu vous a ramenés. Ce serait vraiment intéressant. On pourrait voir que chacun d'entre nous, on était dans nos petites affaires. On était chacun dans nos coins. Certains sont nés dans une famille chrétienne. Je viens d'une famille chrétienne. D'autres avaient aucun arrière-plan chrétien. Et si Dieu n'était pas venu, ne serait jamais devenu chrétien. Mais Dieu nous a tous rassemblés, nous a tous ramenés. Et un jour, quand Jésus va revenir, là, on va être vraiment rassemblés, tout le monde ensemble. Mais petit à petit, Jésus est en train tous de nous ramener, non pas d'un pays étranger, loin d'Israël, pour nous ramener en Israël, mais il nous a rassemblés hors du péché, hors de notre ennemi. Et c'est là où ce qu'il dit... L'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné ton ennemi. Il nous a délivrés du royaume de l'ennemi pour nous amener dans son royaume à lui. L'Éternel est au milieu de toi. Non seulement l'Éternel nous rassemble, mais l'Éternel vit au milieu de nous. Et ça, c'est l'accomplissement de qu'est-ce que le peuple d'Israël espérait en construisant le tabernacle dans l'Ancien Testament. En construisant le tabernacle, le peuple espérait que Dieu allait être au milieu d'eux autres. Et littéralement, les différentes tribus se plaçaient autour du tabernacle pour que Dieu, son tabernacle, sa présence, soit au centre. Parce qu'il disait, si Dieu est au milieu de nous, le peuple va réussir, le peuple va prospérer, le peuple va être béni. Ça, c'est un thème qui revient. Et là, le prophète promet qu'un jour, l'Éternel va être vraiment au milieu de toi. Et encore là, Jean annonce que Jésus-Christ, en venant en chair, est venu au milieu des êtres humains et Dieu est vraiment venu avec nous. Et en donnant le Saint-Esprit, Dieu demeure vraiment au milieu de nous. Donc, chacun d'entre nous, avec le Saint-Esprit qui est en nous, Dieu est avec nous, est au milieu de nous. Alors, on peut prospérer spirituellement. On est béni. Même si des fois, on a l'impression dans notre vie que ça paraît pas, parce que pour certains d'entre nous, on souffre beaucoup. Certains d'entre nous, on vit une vie difficile. Certains d'entre nous, on n'est pas très riche. Pourtant, Dieu dit qu'on est béni parce que Dieu lui-même est au milieu de nous et il habite en nous par son Saint-Esprit. Et sa bénédiction, c'est pas d'être riche, c'est pas d'être des seigneurs de ce monde. C'est que quand la chair vient, quand nos péchés, Dieu nous a donné la puissance par le Saint-Esprit pour combattre le péché et mettre à mort le péché. C'est pour ça que Paul, à chaque fois qu'il finit de partager l'évangile au milieu de chacune de ses épîtres, va dire, et maintenant, parce que vous avez été un peuple sauvé, maintenant vous pouvez aimer, vous pouvez être joyeux, vous pouvez être en paix, parce que Dieu est au milieu de vous, le Saint-Esprit vit en vous. Ça, c'est un des thèmes. Des applications. Il y aurait beaucoup d'autres thèmes qu'on pourrait regarder. Vu qu'on arrive vers la fin, on va regarder les différentes applications. La première application, garder la foi dans les jours de détresse. Pourquoi peut-on avoir la foi au jour du malheur? C'est parce que, comme on peut le voir, Dieu voit véritablement le cœur du problème. Il sait véritablement ce que l'on vit. Donc, Dieu sait parfaitement c'est quoi qu'on a besoin. C'est quoi la solution à nos malheurs et à nos problèmes. Et la solution, ce n'est pas que nécessairement les circonstances mauvaises qu'on vit disparaissent. La solution, c'est que nous, on fasse appel à Dieu et que Dieu vit en nous. C'est ça la solution. Nous voulons demeurer attachés à lui, attendre la délivrance de l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas qu'un moment donné l'épreuve cesse, mais il nous donne la possibilité d'attendre avec lui la délivrance finale. Vous connaissez, qui connaît l'histoire de Jésus dans la tempête, où est-ce qu'il dormait dans la tempête, puis là, les disciples, ils disent, on va mourir, puis là, Jésus, il dit, homme de peu de foi, puis là, il arrête la tempête, puis là, tout le monde est comme, waouh, Jésus arrête les tempêtes, c'est extraordinaire, puis fait que là, ce que les gens vont dire, ils vont dire, fais confiance en Jésus, et il va arrêter les tempêtes de ta vie. Quand Jésus, il dit, j'ai arrêté la tempête parce que tu manques de foi. Si tu avais une foi, tu aurais dit, parce qu'au début de l'histoire, Jésus dit, allons de l'autre côté, ils vont. Et là, Jésus, il dort. Une tempête, pas de problème, je dors, il n'y a pas de problème. Puis les disciples, eux autres, ils disent, on va mourir, on ne passera pas. Même si Jésus a dit, on va aller de l'autre côté. Puis Jésus lui a dit, vous manquez de foi. Parce que ce que Dieu veut nous faire, ce que Dieu veut nous faire traverser, c'est qu'il veut nous faire traverser la tempête avec lui. Et qu'on lui fasse confiance qu'au travers de la tempête, il est avec nous et qu'il va nous amener de l'autre côté. C'est ça que Dieu veut faire dans les jours de détresse. Et je sais, c'est pas facile à dire parce qu'on aimerait dire aux gens, quand ils vivent de la détresse, ça va être fini bientôt. On va prier pour que Dieu enlève ta détresse. On va prier pour... Et c'est sûr qu'on veut qu'un jour, l'épreuve arrête. On veut que ça passe de côté. Mais faut pas oublier que aussi, avec quand on demande à Dieu de nous délivrer de la détresse, on veut aussi lui demander la patience de passer au travers. La patience d'attendre la délivrance de Dieu. Deuxième des choses, deuxième application, laissons Dieu nous reprendre. Il faut être disposé à entendre des paroles dures de la part de Dieu avant que l'on puisse vivre pleinement sa grâce, sa joie, sa paix. Des fois, il faut être juste prêt à entendre Dieu nous dire ton attitude présentement, c'est pas fort. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de juste prendre qu'est-ce que Dieu nous dit, de nous laisser reprendre par Dieu. Déjà que si Élie me reprend, déjà j'ai de la misère à le prendre. Fait que, je sais pas si vous imaginez, Dieu me reprendre, c'est encore plus difficile. On a de la misère à se faire reprendre par les gens d'autour. Fait que, imaginez quand Dieu nous reprend, mais pourtant, Dieu nous montre au travers de Sophonie, laissons-nous reprendre par Dieu. Dieu, il dit encore, comme je l'ai lu tantôt, réfléchissez, examinez-vous. Prenez le temps d'écouter qu'est-ce que je vous ai dit. C'est important. C'est là où ce qu'on va pouvoir avoir le cœur mou qu'on a besoin pour être façonné par Dieu. Troisième application, qui sommes-nous? Est-ce qu'on est un peuple glorifié ou humilié? Et ça, c'est spécial parce que dans Sophonie, chapitre 3, verset 12, il dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » C'est drôle comment les Juifs espéraient un peuple fort, tandis que Dieu il dit, non, ce que je veux, c'est laisser un peuple humble et faible au milieu de toi. Et Jésus revient dans son discours sur la montagne et va dire, heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux les miséricordieux. Toute une attitude genre, tu sais, des fois dans notre tradition, ça dit heureux les bonasses, c'est tout ça? je sais plus. Heureux ceux qui sont, qui manifestent une faiblesse, et c'est pas une faiblesse dans le sens on se laisse marcher sur le dos, mais c'est une faiblesse au milieu de ce monde où est-ce que on est prêt à recevoir que Dieu nous reprenne, on est prêt à, plutôt que de rendre le mal pour le mal, on est prêt à donner le bien en échange du mal qu'on reçoit, on est prêt à endurer la souffrance. On est prêt à attendre patiemment. On va pas essayer de se débattre comme des fous dans nos détresses, comme le monde font. Nous, au contraire, Dieu veut laisser un peuple faible et humilié. Humilié aussi, mais humble. Où est-ce qu'on va être capable de reconnaître que Dieu nous a humiliés? Il nous a rendus faibles pour que lui puisse manifester sa force. Quatrième, glorifier Dieu pour son salut. Fait qu'on voit dans ce livre-là, on méritait le jugement de Dieu, la condamnation éternelle, mais Dieu, dans sa grâce, a fait retomber notre condamnation sur Jésus-Christ. Il dit au chapitre, est-ce que c'était la signification au verset 7? Silence devant le Seigneur, l'Éternel, au chapitre 1, excusez-moi, verset 7. En effet, le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice. Il a consacré ses invités. Quand on avait un festin, puis on avait un grand festin, on faisait un sacrifice pour dire on va manger de la viande, ça va être un festin aujourd'hui. Jésus, dans ses paraboles, parle souvent de festin, ce qu'il dit, genre ah, là, on invite tout le monde, tout ça, parce que venir à Dieu, c'est pas venir, puis comme l'évangile de la pauvreté nous le dit, on vient, puis là, faut se débarrasser de tout. C'est un festin, on s'amène, on arrive, puis on rentre dans la joie de Dieu. Dieu est joyeux. Dieu n'est pas en colère, il n'est pas là. OK, là, tu es venu vers moi, mais là, la prochaine petite affaire que tu fais, là, c'est bang dans ta face, puis tu t'es faite. On rentre dans une salle de festin. Puis il dit, il a consacré ses invités, et j'interviendrai contre les princes et les fils du roi, et contre tous ceux qui portent des habits étrangers. Certains commentaires vont dire que Jésus a repris cette idée-là dans sa parabole où est-ce qu'un homme est arrivé avec un habit qui était normal et c'était pas un habit de fête. Et là, le maître du festin lui dit « Wow, t'as pas le bon habit, va-t'en. » Et ça, ça nous montre que Dieu, pour notre salut, il veut nous habiller d'un habit de fête, il veut nous habiller de sa justice, de sa grâce. Et non pas que nous, on s'habille avec notre propre justice et notre propre grâce devant lui. Et finalement, la dernière application, les exilés. Le Dieu qui nous ramène. Alors, j'ai déjà parlé des exilés. Je vais juste terminer par ce passage-là qui est vraiment très glorieux. Où ce que, au chapitre 3, verset 16, Dieu dit, « Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. » Un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Souvent, on imagine nous qui se réjouit devant Dieu. On va se trouver devant Dieu puis on va se réjouir de tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pas seulement ça, c'est que Dieu lui-même se réjouit de nous. Combien d'entre nous, quand on était jeunes, dépendant de la relation avec nos parents, mais tout le monde, je pense, peut quand même penser à ça. Combien d'entre nous, on espère tout le temps quand on arrive devant nos parents, puis on leur parle de ce qu'on a fait, tout ça, puis là, on espère qu'ils vont être fiers de nous. On espère qu'ils vont être contents de nous autres. C'est le fun quand nos parents disent « T'as bien fait, je suis content de toi, je suis content que tu sois mon fils, ma fille. » Ça, c'est drôle, on dirait que ça réjouit le cœur d'un enfant. Mais laissez-moi vous dire que devant Dieu le Père, vous êtes déjà la joie de Dieu. Dieu se réjouit déjà. Quand ça dit « il fera de toi, il gardera le silence dans son amour », François, la semaine passée, disait « c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire ». Dieu a déjà tout accompli, fait qu'il reste juste à garder le silence. Mais des fois, je me dis, quand t'aimes quelqu'un et t'es juste fier de cette personne-là, on dirait « qu'est-ce que tu veux dire de plus? » Tu le regardes et t'es content. T'es joyeux, tu l'aimes cette personne-là, puis tu veux juste le regarder. Mais Dieu, c'est comme ça, il ne nous regarde pas avec un regard là, renfrogné, là, puis c'est comme c'est quand est-ce la prochaine. Il te regarde, puis il garde le silence dans son amour. juste, t'es mon enfant, je suis fier de toi. C'est comme, je t'aime. Et, mais il garde pas le silence parce qu'il serait, quand il dit, il se réjouira à grand cri à ton sujet. Quand Dieu crie, je sais pas ce que ça va faire. Ça va shaker pas mal d'affaires, mais il va se réjouir à grand cri à notre sujet. Ce sera pas juste nous qui va chanter et crier et célébrer Dieu, comme on va le faire maintenant pour le culte, mais Dieu lui-même, un moment donné, on va l'entendre crier et se réjouir pour nous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. J'espère que vous avez hâte, parce que moi j'ai hâte. Il y a même un prophète qui dit que Dieu va chanter pour nous. Et ça, j'ai encore plus hâte de voir ça. Dieu qui chante. C'est-tu un ténor, un soprano, tout ça? J'ai hâte de voir Dieu chanter. Ça va être intéressant. Fait que c'est tout ce que j'avais pour vous dans Sophonie. Je vais simplement terminer dans un mot de prière, puis après, on va pouvoir aller au culte. Seigneur Dieu, je veux te remercier parce que il n'y a rien que j'ai fait pour recevoir ce que tu m'as donné. Au contraire, tout ce que j'ai fait, c'est de te repousser. Puis j'aurais jamais pu obtenir ce que tu m'as donné, mais en Jésus-Christ, tu as payé pour mes péchés. Tu as préparé, Seigneur Dieu, le sacrifice pour pouvoir me laisser accéder à ton festin, à ta joie. Et c'est ça que je veux. On veut participer à ta joie. Je te prie que tous ceux qui viennent ici, peut-être un peu plus lourds, qui viennent ici parce qu'ils se disent « ça va moins bien », qu'ils puissent, Seigneur, s'approcher de toi et dire « je veux rentrer dans ton festin, je veux rentrer dans ta joie ». Et qu'ils puissent se réjouir. Tantôt, il y a des gens qui vont, on va chanter, mais je te prie qu'on puisse chanter de tout notre cœur et pas d'un cœur à moitié rempli d'inquiétude. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. Et Seigneur, si jamais tu veux nous reprendre, si jamais tu as des paroles à nous adresser, qu'on puisse les prendre pour que notre joie en soit pas dissipée, mais qu'on puisse à t'avoir avec joie. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as fait en Jésus-Christ, et c'est en son nom que je te prie. Amen.